verset 23. Après avoir été relâchés, ils, c'est-à-dire les disciples, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà, bel exemple de prière, n'est-il pas vrai? Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Vous savez, comme je disais, effectivement, dans le livre des Actes, vous trouvez des discours qui sont assez longs. Vous avez le discours de Pierre à la Pentecôte, par exemple. Vous avez le discours d'Étienne, avant qu'il ne devienne martyr. Vous avez le discours de Paul, plusieurs discours de l'apôtre Paul. Mais vous avez peu d'exemples de prières. Vous avez beaucoup de mentions de prières, mais pas beaucoup d'exemples. Hein. C'est Luther un jour qui disait « Je suis tellement pris par le travail maintenant que si je ne passe pas chaque jour 2 ou 3 heures dans la prière, je n'arrive pas à faire mon programme. Si je négligeais la prière, ne serait-ce qu'un seul jour, je perdrais une grande part du feu de la foi. » Intéressant, hein ? Si je négligeais la prière, ne serait-ce qu'un seul jour, je perdrais une grande part du feu de la foi. C'est vrai que nous aussi, je crois que si Luther peut dire ça, nous pouvons aussi réaliser cela. Et puis, ce passage nous donne un exemple. Hein. D'ailleurs, tout le livre des Actes des Apôtres aussi est exemplaire en ce qui concerne la prière. Et nous allons essayer, Dieu voulant, de faire un petit catalogue, de recenser systématiquement les prières qu'il y a là, et puis surtout de recenser un certain nombre de choses qui les concernent. Hein. Ici, vous avez une façon de prier, donc c'est la supplication, c'est au verset 24. Vous avez aussi une forme de prière, ils ont élevé la voix. Vous avez aussi un caractère de leur prière, c'est l'unité, donc ils ont été très, très unis à ce moment-là. Et puis vous avez aussi une circonstance de la prière, c'est les difficultés, les menaces dont ils étaient l'objet. Et puis vous avez les conséquences d'une telle prière, vous l'avez vu, la manifestation de la puissance de Dieu et le Saint-Esprit qui les a remplis. Et nous allons essayer de faire un peu le tour de ce que les Actes des Apôtres nous disent dans chacun de ces domaines. Déjà, les différentes façons de la prière dans les Actes, dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est quand même notre modèle, notre modèle dans différentes choses, alors, et en particulier aussi dans la prière. Donc, les façons de prier. Déjà, vous avez plusieurs exemples dans lesquels il est question d'intercession, il est question de supplication, et dirais-je, avec constance. Dans le chapitre 1, verset 24, pour le choix d'un douzième apôtre, je ne vais pas lire les passages, je donne juste les références parce que j'ai pas mal de références, mais donc quand il s'agissait de choisir un douzième apôtre à partir de Judas, voyons qu'ils ont prié, intercédé avec instance. Dans le chapitre 9, au verset 12, Paul se trouve dans la maison de... il s'appelle pas encore Paul à ce moment-là, il s'appelle Saul de Tarse, dans la maison de Judas de Damas, et là aussi, il prie avec instance, et Dieu va l'exaucer, pour être délivré de son aveuglement, et aussi pour que Dieu agisse puissamment dans son âme. Corneille n'était pas encore converti, mais dans sa maison, cependant, il priait instamment aussi. Il priait avec instance, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 10, au verset 30, et nous savons comment Dieu l'a merveilleusement visité. Après, vous avez aussi, lorsque Pierre était en prison, et puis que donc Hérode voulait le faire tuer le lendemain, là encore, l'Église, l'Assemblée, a prié avec instance dans la maison de Marie, mère de Jean, c'est dans le chapitre 12, au verset 5, au verset 12 aussi, voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, spécialement lorsqu'on trouve dans des situations de péril comme celle-là, parce que vous savez, le diable ne nous fait pas de cadeaux, et c'est vrai que son désir, c'est de détruire, hein. Je lisais l'autre jour le témoignage d'un homme qui expliquait, c'était son entreprise qui assurait la sécurité des données pour les opérations spatiales militaires. Donc, il disait que, voilà, ils avaient pris toutes sortes de précautions, mais que quand même les ordinateurs étaient très vulnérables aux attaques extérieures. Alors, vous avez toutes sortes, oui, de spécialistes qui sont là. Il expliquait que lors d'un exercice militaire, des pirates, donc, qui était chargé de cela, avait réussi à arrêter un système hautement protégé sans voler le moindre mot de passe, sans déchiffrer de code. Simplement, ils avaient accédé au programme de maintenance non protégé de l'édifice où se trouvaient les ordinateurs. Ils avaient fermé la climatisation. Voilà. Et puis, quand il a commencé à faire trop chaud dans la salle des ordinateurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tout s'est arrêté. Hein. Donc, ils ont trouvé le système comme ça. Et vous savez, le diable aussi, il cherche des failles chez nous. Et il en trouve. Hein. Il n'a pas de mal à en trouver. Hein. L'Écriture nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est pour ça qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité, c'est un besoin. Et ayons à cœur d'être rempli du Saint-Esprit et de cultiver la confiance en Dieu. Et le Seigneur, eh bien, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, comme il est écrit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Mais il faut quand même veiller, il faut quand même lutter, comme nous le voyons là. Alors, on a parlé de l'intercession, de la supplication. Après, vous avez aussi l'invocation du nom du Seigneur. Invoquer le nom de Jésus. Dans le chapitre 2, verset 21, il est marqué « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Hein, et combien le merveilleux nom de Jésus est un puissant moyen de salut et un puissant moyen de délivrance. J'ai réalisé cela pour la première fois lorsque j'étais jeune converti, et puis que, donc, en Alsace, j'avais été mis en présence de choses occultes. Bon, ben, c'est pas moi directement, mais c'était la personne qui m'avait amené au Seigneur. Ils avaient loué une maison, donc c'était dans le nord de l'Alsace, là-bas. Et puis, cette maison, ils l'avaient eue pour un tarif vraiment imbattable. Hein. C'était moitié prix de l'habituel. Et puis, ils étaient très contents. Ils pensaient que c'était une très bonne occasion. Et puis, ils se sont aperçus que les gens ne restaient jamais dans cette maison. Hein. Au bout de 15 jours, ils repartaient tous. C'était la raison pour laquelle c'était une belle maison, qui était bien et tout. Hein. Et puis, mais ils se disaient, comment ça se fait ? Et puis, ils avaient un petit bébé, ces gens-là, ces serviteurs de Dieu. Et puis voilà que la première nuit, le bébé a commencé à pleurer. Je ne sais plus quelle heure il était du matin, je ne sais plus. Il a commencé à pleurer, ils sont allés voir, le bébé était tout bleu, avec le visage tout bleu, comme ça. Alors, ils s'en sont occupés. Bon. La nuit d'après, même chose à la même heure. La nuit suivante, même chose à la même heure. Alors, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Hein. Donc, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, secours-nous, fais quelque chose, agis. Et puis, la nuit d'après, le frère, il a senti le drap qu'il attrapait par le cou, comme ça, le drap se serrait autour de son cou. Ouais. Hein. Donc, son propre drap venait pour lui serrer le cou et pour l'étrangler. Alors, il a crié, Jésus ! Et le drap, immédiatement, c'est relâché. Plutôt l'esprit qui était derrière l'a relâché. Et puis après, bon, ils ont su de quoi il s'agissait. Hein, donc ils ont délié la maison au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, ce nom-là, quand il est prononcé avec foi, eh bien, il est puissant pour la délivrance. Alléluia. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé à ce moment-là, c'est que dans le précieux nom de Jésus, il y avait une puissance de délivrance qui était absolument remarquable. Alléluia. Et c'est toujours cette réalité-là. Et puis après, ben, vous avez aussi la louange hein, que vous retrouvez dans les formes, les façons de la prière, la louange. Et vous voyez que là aussi, c'est vraiment quelque chose. Hein, la louange, c'est effectivement, en même temps que ça glorifie Dieu, c'est un puissant moyen de manifester la guérison et la délivrance. C'est également quelque chose, dans le chapitre 2, au verset 47, on voit que les premiers chrétiens louaient Dieu. Le boiteux de naissance guéri à la belle porte du temple, dans le chapitre 3. Lui aussi, il loue Dieu. Il faut qu'il glorifie Dieu. Même, regardez Paul et Silas quand ils sont dans la prison. Et pourtant, Ils sont dans la prison intérieure, ils ont les cèpes aux pieds, hein, ce qui est terrible. Et puis, ils ont un avenir, ils ont été battus déjà en plus. Et puis, ils ont un avenir qui est extrêmement mal orienté. Hein. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils chantent les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils se sont dit, ben non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ben, première chose, c'est commencer par se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, pas de ce que Dieu est pour nous. Et parce qu'ils ont fait cela, ça leur a donné la force, voyez-vous ? Ça leur a donné le renouvellement, ça leur a donné la foi, et voyez l'intervention que Dieu a opérée. Et nous, c'est ça qu'on a besoin aussi, vous savez, quand les difficultés sont là, quand la souffrance est là, quand, il faut qu'on se mette à commencer à compter les bienfaits de Dieu pour louer le Seigneur. Et quand on fait ça, ça change notre état d'esprit. Et puis quand on fait ça, eh bien, ça nous donne le moyen de discerner aussi l'œuvre de Dieu, discerner la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous délivre. Amen. Hein? Ensuite, que voyons-nous encore concernant la façon ? Ben, vous avez aussi la prière continuelle. Et là, c'est le cas de Corneille, hein, il n'est même pas converti pourtant. Pourtant, il nous a dit qu'il priait Dieu continuellement. Ça voulait dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il était à genoux continuellement. Hein, c'était un centenier romain. Vous savez, un centenier romain, il faut que, hein, il y avait des occupations. Hein. Mais ça veut dire que dans son cœur, il était dans un état d'esprit de communion avec Dieu, de disposition devant Dieu. Il n'était même pas converti encore, hein. Il s'est converti après. Mais déjà, et Dieu ne lui a pas répondu tout de suite pour la conversion. Pourquoi ? Parce que Dieu avait pour lui en vue une expérience glorieuse, extraordinaire. Hein. Parce que quand Corneille s'est converti, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Hein. En même temps, le baptême du Saint-Esprit et tout, et puis bien d'autres personnes en même temps. Et souvent, vous savez, quand vous êtes obligé de lutter et d'attendre un moment avant d'avoir quelque chose que vous demandez, eh bien, c'est souvent parce que c'est une grande chose que vous êtes en train de demander. Alors, tenez bon et persévérez. Hein. C'est important de faire cela. Donc, et puis après, ben, vous nous avons vu qu'ils ont glorifié Dieu, puis voilà, dans la maison de Corneille en particulier. Et puis encore d'autres passages où on voit quand même les païens glorifient la parole du Seigneur à cause du salut qui leur est annoncé à Antioche de Pisidie, par exemple. Les chrétiens glorifient Dieu quand ils entendent parler de miracles accomplis pour le salut. L'Écriture nous dit « Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » Et puis vous avez aussi le fait de recommander. C'est-à-dire, recommander, ça veut dire que, quand vous avez envoyé un paquet de recommandés, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que vous tenez particulièrement à ce que le contenu soit soigné et arrive là où vous le désirez. Vous prenez des précautions pour ça. Et là aussi, hein, vous avez expliqué que, par exemple, chapitre 15, verset 40, Paul et Silas repartent, recommandés par les frères à la grâce du Seigneur. Hein. Il y a plusieurs passages comme ça qui nous expliquent, d'ailleurs ça va dans l'autre sens aussi, parce que chapitre 20, au verset 32, Paul recommande les anciens d'Éphèse à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc, voilà, il émet une prière spéciale pour des personnes qu'il a particulièrement à cœur, pour une mission particulière aussi. Amen. Voilà encore. Et puis bien sûr, vous avez les actions de grâce. Hein. On a parlé de louange et de glorifier Dieu, mais insistons sur l'aspect de remerciement, hein, de remerciement à Dieu qui provient de notre gratitude. Paul prie dans la tempête, au bout de 15 jours de tempête, Paul rend grâce. Paul rend grâce, hein, il remercie Dieu, parce que déjà pourquoi ? Parce qu'ils sont encore en vie alors qu'ils devraient être certainement morts, hein. Et puis il remercie Dieu parce qu'il sait qu'il y a une délivrance qui vient, il remercie Dieu parce qu'il y a des promesses, voyez-vous, et c'est important de pouvoir se rappeler les choses et de remercier Dieu, donc, et puis il rendra grâce aussi hein, dans la fin du livre des Actes, chapitre 28, dernier chapitre, verset 15, en voyant l'accueil des frères de Rome. Nous essayons, ayons à cœur d'avoir un cœur reconnaissant. C'est fondamental pour la foi. C'est vraiment fondamental. Ça nous aidera à mieux discerner l'action de Dieu dans notre vie journalière et à augmenter notre propre foi. Amen. Voilà, ça c'est les façons. Maintenant parlons des formes de la prière. Les formes de la prière, parce qu'il y a des discussions parfois à ce sujet. Hein, certains disent, voilà, faut parler fort. D'autres disent, non, ben, c'est pas la peine, etc. Bon, eh bien. Écoutez, il y a un temps pour toute chose, hein. Déjà, au chapitre 4, verset 24, on vient de lire notre texte, là, tout à l'heure, ils ont élevé la voix, hein. Ils ont élevé la voix, ils ont crié d'une voix forte, ils ont élevé la voix tous ensemble, c'est-il marqué. Donc, ça existe, hein. Ça existe, et Dieu le soutient, et Dieu l'approuve, hein. C'est une chose évidente. Donc, vous avez d'autres situations. Hein, lorsque Étienne était en train de se faire lapider, lui aussi, il a crié d'une voix forte. Hein. Bon, on peut comprendre, c'est une situation dramatique, direz-vous, hein, mais quand même. Ou alors, le fait aussi de se mettre à genoux, hein, là aussi, c'est quelque chose qu'on voit plusieurs fois. Non seulement Étienne, lorsqu'il est prêt de mourir, mais lorsque Pierre va prier pour Dorcas, ce qui va amener sa résurrection, dans le chapitre 9, ou lorsque Paul prie pour les anciens d'Éphèse, les disciples d'Éphèse, chapitre 20 au verset 36, ou lorsqu'il prie sur le rivage avec les disciples de Tyr, il se met à genoux dans ces diverses occasions, dans ces diverses situations, hein, on le voit. Et puis aussi, une autre forme de prière, c'est en chantant. Eh oui, dans nos chants, combien de chants nous avons qui sont des prières? Combien de chants nous avons qui sont des louanges, hein? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, est-il dit, lorsqu'ils étaient en prison, dans le chapitre 16, au verset 25. Et puis alors aussi en parlant. Ah oui, parce que prier, c'est parler à Dieu. Hein, c'est pas la peine de prendre un ton, je ne sais pas, bizarre pour s'exprimer. On peut lui parler simplement comme un homme parle à son ami, parce que c'est effectivement notre meilleur ami, alléluia. Hein, et nous pouvons donc prier ainsi. Donc, chapitre 7, verset 59, Étienne qui priait et disait, voilà, et puis vous retrouvez ça dans d'autres passages encore. Et je crois qu'il ne faut rejeter aucune de ces formes de prière. Il ne faut se priver d'aucune, parce que vous savez quoi? Si vous en rejetez une, bien c'est justement celle-là que Dieu va vouloir de vous. Sachez-le bien, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Hein. C'est un peu comme l'histoire de cet homme qui allait aux réunions des évangélistes de l'armée du salut. Et puis les armées du salut, ils avaient un principe, c'était qu'ils avaient devant le banc des pénitents. Ils appelaient ça le banc des pénitents. C'est-à-dire que si quelqu'un répondait à l'appel de Dieu, on lui disait, ben, écoute, ceux qui veulent se repentir, se tourner vers le Seigneur, venez devant, au banc des pénitents. Alors, ils ne levaient pas juste leurs mains, hein. Il fallait qu'ils se lèvent, puis qu'ils viennent devant s'asseoir au banc des pénitents. Voilà. Et puis alors, le prédicateur priait pour eux. Alors, c'était comme ça que ça se passait. Puis cet homme-là, il s'était dit, mais non, je n'irai jamais au banc des pénitents. Déjà, ce n'est pas dans la Bible, hein. Il n'y a pas de banc des pénitents dans la Bible. Donc, je n'irai jamais au banc des pénitents. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, Dieu ne l'a pas béni jusqu'au jour où il est allé au banc des pénitents. Parce que ce n'était pas la question du banc des pénitents, vous imaginez bien. C'est la question de la résistance de son propre cœur. C'était ça la chose. Hein. Et puis le fait d'accepter de s'humilier. Donc, que Dieu nous aide, puisque c'est écrit dans la parole. Eh bien, mettons ces choses en pratique à plus forte raison. Amen. Alors les caractères de la prière que vous trouvez dans les actes des apôtres, ben vous avez déjà la persévérance et la continuité. Ça c'est ce qui revient certainement le plus souvent. Déjà pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il ne leur est pas tombé dessus le jour où il a dit « Ah, moi j'ai envie d'être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, donc je vais être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. » Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il a fallu qu'il prie pendant longtemps. Pendant tout un temps, il a fallu qu'il prie pour que le baptême du Saint-Esprit vienne sur eux. Il fallait qu'ils persévèrent dans la prière. C'est marqué, chapitre 1, verset 14. Comme je vous dis, les grandes bénédictions, il faut quand même lutter pour les avoir. Hein. Si on veut être baptisé du Saint-Esprit, c'est une grande bénédiction. Hein. Il faut lutter pour l'avoir. Ensuite, après leur conversion, on voit encore qu'ils persévéraient dans la prière, chapitre 2, verset 42. Je vous ai déjà parlé de Corneille, qui priait Dieu continuellement, est-il marqué, hein? Donc qui persévérait, et combien il a bien fait de le faire, hein? Ah, il n'a pas regretté, hein, certainement, cet homme-là. Et puis, l'Église, lorsque Pierre était dans la prison, vous vous souvenez que l'ange l'a sorti de la prison, l'Église était en train de prier là aussi, continuellement pour sa délivrance, pendant toute la nuit, ils étaient là en train de le faire. Vous voyez que combien le succès a été accordé à chacune de ces fois, à la persévérance, hein, voilà, parce que justement, on réalise que ce sont des choses grandes et précieuses que le Seigneur veut accorder. Amen. Une autre chose qui est précieuse, c'est l'unité. Ah, ça aussi, hein. Et j'en reviens, dans le chapitre 1, verset 14, non seulement ils priaient avec persévérance, mais ils priaient ensemble, on le voit. Et c'est pour ça que la réunion de prière, c'est vraiment quelque chose d'important et de précieux en particulier. Hein. Donc, ensuite, nous l'avons lu dans notre propre texte, là, chapitre 4, c'est qu'ils ont élevé la voix tous ensemble, hein. Et puis, on pourrait donner encore d'autres exemples, mais je vois une troisième chose aussi. Troisième chose, c'est qu'ils se sont appliqués. Ils avaient de l'application pour prier. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Pas faire la prière par-dessus la jambe, hein. C'est évident, ça paraît évident. Et pourtant, vous savez, on peut avoir des fois des pensées qui nous traversent l'esprit, ça vous est jamais arrivé à vous, hein. Évidemment, ça nous arrive hein, tous. À ce moment-là, ben, il faut se concentrer, avec le secours de Dieu, sur ben, ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est parce que les apôtres eux-mêmes disaient que nous allons nous appliquer à la prière et à l'enseignement de la parole. Et il disait, il fallait qu'il s'y applique, chapitre 6 et verset 4. Hein. On le voit clairement là aussi. Et puis, bien sûr, la participation active de chacun. Hein. Donc, au chapitre 20 au verset 36, Paul a prié, est-il marqué, avec tous. Hein. Il n'y a pas un qui s'est mis à l'écart. Tous ont dit Amen, tous ont participé à ces moments-là. Et ça, c'est aussi, bien sûr, l'objectif, un des objectifs recherchés. Amen. Et puis maintenant, parlons de la circonstance de prière difficile. Ah oui, parce que on s'aperçoit que, ben oui, qu'il y a eu de ces moments de prière qui ont été compliqués, ben celui dans lequel nous avons pu lire, là, ils étaient dans la persécution, hein. De la persécution, ils étaient menacés, ils avaient été battus, et puis s'ils écoutaient simplement ce que les hommes disaient, ben, ils se mettaient dans un trou, puis ils ne bougeaient plus. Hein. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On voit que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans la persécution. Étienne, ben, rappelez-vous, au moment de sa mort violente, lui aussi, eh bien, c'était cette prière qu'il a tenue et qu'il a aidé à remporter la victoire au bout, dans des circonstances qui étaient véritablement très traumatisantes. Hein. Lorsque Pierre était dans la prison, là aussi, on s'aperçoit que c'est cette prière persévérante, Paul et Silas dans la prison, encore une fois, hein, c'est la prière encore qui a été le moyen de renverser la situation complètement. Hein. Et puis ensuite, lorsque Paul était dans la tempête, chapitre 27, verset 35, à chaque fois, on s'aperçoit que c'est la prière qui a été le moyen de les faire sortir victorieusement de ces circonstances difficiles. Amen, amen. Nous avons donc un Dieu de victoire qui répond à la prière et il est important que nous nous adressions à lui et que nous confions en lui. Il y avait au début du XXe siècle une manufacture de coton, donc c'était, et là sur un mur vous aviez une pancarte avec l'inscription suivante dans chaque atelier, parce qu'il y avait des métiers, donc des machines qui s'appelaient des métiers à tisser, ou à filer, je ne sais plus. Si vos fils s'en mêlent, appelez le contremaître, ça c'était marqué sur le panneau, voilà. Dans chaque panneau, chaque atelier, vous aviez ça. Puis un jour, il y a une nouvelle ouvrière qui arrive, et elle emmêle ses fils, et elle a essayé de les démêler elle-même. Et le résultat, c'est qu'elle a fait que les emmêler encore plus. Alors, elle a fait appeler le contremaître, et lui, quand il est arrivé, il a regardé, lui a dit, mais dis donc, c'est vous qui avez fait ça? Alors, elle a dit, eh ben oui, oui, oui. Alors, il a dit, mais pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas envoyé, appelé, suivant les instructions? Elle a dit, j'ai fait de mon mieux. Alors il lui a dit non, non, vous n'avez pas fait de votre mieux. Souvenez-vous que faire de votre mieux, c'est de m'appeler. Faire de votre mieux, c'est de m'appeler. Et nous, c'est pareil. Nous, ce n'est pas un contremaître qu'on a, nous, c'est un maître qu'on a. Alléluia. Hein, c'est le Seigneur qu'on a. C'est lui qui est tout puissant pour démêler les situations compliquées de notre vie. Et la première chose que nous avons intérêt à faire, eh bien, c'est justement de faire appel à lui pour qu'il puisse intervenir. Amen. Alors, quelles sont les choses que Dieu donne quand nous prions suivant la parole, spécialement dans ce livre des Actes? Alors, nous avons bien sûr le baptême et le renouvellement du Saint-Esprit. Hein, c'est ce qu'on voit au début du livre des Actes, hein, spécialement à la Pentecôte, chapitre 2, verset 1 à 4. Mais dans notre texte aussi, vous avez vu qu'ils ont été renouvelés puissamment. Hein, donc c'est au chapitre 4, et dans la maison de Corneille aussi, vous allez avoir un merveilleux baptême du Saint-Esprit, donc qui va descendre sur tous ceux qui seront dans sa maison, et ça va être vraiment un moment céleste sur terre encore. Ensuite, une deuxième chose que Dieu donne, c'est le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous l'avons déjà dit, mais rappelons-le. Et puis vous avez encore, pardon, la guérison. La guérison divine, c'est aussi un désir de Dieu, une manifestation de sa puissance. Voyez le boîteux de naissance à la belle porte du temple. Rappelez-vous aussi vers la fin des Actes, au chapitre 28, donc, le père de Publius, atteint de fièvre et de dysenterie, et là, il nous est marqué que Paul a prié pour lui, qu'il a été guéri. Tous les malades de l'île sont venus après, tous ont été guéris suite à la prière. Vous avez encore là un puissant désir de Dieu. Après, vous avez le tremblement de terre, accompagné d'un tremblement de cœur surtout. Hein. Là aussi, dans notre texte, le lieu où il fut assemblé trembla, est-il marqué, et vous retrouvez ben voilà, un tremblement de terre, un tremblement de cœur dans la ville de Philippe, qui a amené non seulement à ce que les fondements soient ébranlés, mais aussi le cœur du geôlier avec toute sa famille, hein, pour venir qu'il soit amené à Christ. Et puis, une autre chose que Dieu donne, c'est le fait d'annoncer la parole avec assurance, parce que c'est nécessaire ça aussi, hein. Il faut l'annoncer avec conviction, l'annoncer avec les certitudes dans notre cœur pour que ça puisse être communicatif par la grâce de Dieu. Et on le voit donc là au chapitre 4 au verset 29, ils l'ont demandé et puis la réponse est arrivée deux versets plus loin, hein, nous voyons. Et puis Dieu envoie aussi une vision, hein, la vision. Lorsque Paul est à Damas, ça commence par une vision que Dieu lui donne. Corneille dans sa maison a une vision, Pierre sur le toit a une vision, Paul dans le temple a une vision. Donc, alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on a toujours des visions. Ça peut se produire, ça se produit, je veux dire, à certains moments particuliers de notre vie, hein. C'est-à-dire que Dieu à ce moment-là peut effectivement nous envoyer quelque chose la nuit ou à un moment, il peut le faire, et par quoi ? Eh bien, il nous montre vraiment clairement les choses. Mais très souvent, on s'aperçoit que la vision que Dieu fait, il la forme en nous au travers de sa parole, hein. Et ça, c'est le fondement, il est là, hein. Et peut-être que vous n'aurez jamais vu de vos yeux une vision angélique et céleste, mais que vous aurez dans votre cœur la vision divine parce que vous serez nourri de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu vous conduira par de puissantes convictions qui viennent de l'assurance qu'il donne ainsi. Amen. Et puis les prodiges et les miracles également, c'est aussi un désir que le Seigneur veut encore accorder. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez la résurrection de Dorcas ou la libération de Pierre ou d'autres. En tout cas, sachons, gardons dans notre cœur cette conviction que notre Dieu est toujours le même. Sa parole est toujours la même, ses promesses sont toujours les mêmes, son désir de répondre aux prières est toujours le même. Et voici sous nos yeux donc le modèle de ce que nous devons faire avec toutes sortes d'exemples correspondant à toutes sortes de cas de figure, à toutes les situations que nous pouvons rencontrer, dans lesquelles nous pouvons nous trouver aujourd'hui ou dans les temps à venir. Alors ayons à cœur d'intercéder et de supplier. Ayons à cœur d'invoquer le nom du Seigneur. N'oublions surtout pas la louange, hein. Soyons persévérants dans la prière. Glorifions le Seigneur. Ayons des actions de grâce et des remerciements. Et veillons à être bien unis, hein. Donc, à participer de tout cœur avec ardeur et ferveur à la prière commune et à l'œuvre commune. Combien le Seigneur veut encore agir et exaucer aujourd'hui. Béni soit son nom. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ta grande grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est véritablement le guide infaillible, Seigneur, par lequel tu nous conduis, par lequel tu nous donnes toutes les instructions, toutes les indications nécessaires. Et que tu suis toi-même, Seigneur notre Dieu, que tu prends encore grand soin de confirmer toutes les manières qui sont nécessaires pour que nous puissions être bien instruits, que nous puissions être bien fortifiés, bien encouragés, Seigneur, bien affermis. Sois loué, sois glorifié pour toute bonne œuvre que tu fais encore maintenant. Amen, Jésus.